La traversée. La traversée, une émission de Lucien Bertolina et Gilbert Racina sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954. Avec ce soir, Louis Seneb. Louis Seneb, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes incorporé le début septembre 1960 en Algérie, et nous allons un petit peu parler de ça, du fait que vous ayez servi sous les drapeaux durant près de 2 ans, en pleine guerre. Et vous êtes un jeune ingénieur agronome, sorti donc de l'Institut agronomique de Paris. Où êtes-vous incorporé et comment ça se passe ?
Ben, je suis incorporé au 1er régiment de hussards parachutistes à Tarbes. Par punition, je dirais, pour ne pas avoir voulu suivre la préparation militaire supérieure auquel j'avais droit en tant qu'ingénieur sortant d'une grande école. Et je dois dire que ce fut pour moi une découverte d'un monde que j'ignorais, puisque nous étions trois grandes écoles et dans mon peloton, et 37 qui était arrivé en fourgon cellulaire. Donc, ce fut une confrontation, je dirais, pendant les premières semaines qui étaient d'ordre physique, après d'ordre intellectuel. Et quand c'est devenu d'ordre intellectuel, on a pu prendre un petit peu le dessus. Mais j'ai appris, heureusement, je dirais, à faire ce que je ne voulais pas faire, à faire la guerre.
Vous avez déjà refusé la préparation militaire supérieure, la PMS. Donc il faut se souvenir ce que ça signifiait. Tous les élèves des grandes écoles en France avaient comme obligation
c'est
de
vrai.
Suivre une formation militaire pour être officier. Alors déjà refuser ça, c'est déjà un petit peu se rebeller. C'est pas bien vu. Aux arts et métiers par exemple, c'est très 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 mal vu.
À l'agro aussi, c'est pas très bien vu. J'étais convoqué par le directeur qui m'a dit vous êtes que deux dans la promotion à refuser ça, pourquoi vous le refusez? Je lui ai dit ça, c'est mes opinions personnelles, ça n'a rien à voir avec ma formation d'ingénieur à l'école. Je lui ai dit moi, personnellement, je spécule, je lui dis sur le fait que j'aurais pas besoin de me préparer militairement à une guerre qui, de toute façon, ne se fera pas ou se fera pas pendant que je pourrais être appelé. C'est vrai que l'armée française et le gouvernement français, dans sa grande générosité, faisaient rentrer 250 candidats officiers à Saumur, faisaient nommer 220 ou 230 aspirants qu'on payait avec de la monnaie de singe. Et une vingtaine de sous-lieutenants qu'on payait royalement, je dirais, comme des ingénieurs débutants dans un grand organisme de recherche. Bon, là aussi, je me suis dit, pourquoi pas aller jusqu'au bout, moi qui suis originaire d'une famille modeste, si en plus je peux gagner du pognon tout en faisant ce que je n'ai pas envie de faire, j'y vais. Donc, je suis sorti sous-lieutenant de Saumur, voilà.
Mais alors, Saumur, c'est quand même l'école de cavalerie, c'est pas rien, mais ça vous donne un prestige à ce moment-là.
Ah, tout à fait. Gants beurre frais, le stick à la main, le képi. Je me sentais un peu déguisé, mais je trouvais que ça avait quand même un sacré pouvoir par rapport aux militaires que j'ai rencontrés après. Comment on est sorti troisième de votre promotion de son mur, etc., etc. Bon, c'est vrai, ça donnait du prestige. Mais c'est vrai que je faisais partie aussi des quelques rares officiers du contingent.
Du contingent, vous êtes appelé, il faut le rappeler. Oui, d'accord.
Du contingent, rebelle du contingent qui était en mesure de commander en temps de guerre, je n'avais pas connu la guerre encore, un peloton de 5 chars et de 2 automitrailleuses à une époque où il n'y avait pas le téléphone portable, hein, où on avait des relations radio pour se trouver à l'endroit, tu es où, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. C'était un métier que j'avais appris. J'avais appris à tirer à Saumur, j'avais appris à me défendre et à me méfier de tout, et j'ai appris à Saumur à commander. Alors que j'avais refusé tout ça quelques années avant. Et quand je me suis retrouvé en Algérie, je me suis dit, t'as peut-être fait le con de refuser le truc, parce que là, maintenant, maintenant tu y es, heureusement que tu sais, parce que si tu savais pas...
Hein. Oui, c'est ça. Donc vous arrivez en Algérie, vous êtes en plein dans le feu, en fait.
Direct. Je pars de l'aéroport de Marseille-Marignane, je me retrouve en Maison-Blanche à Alger, où m'attendait un capitaine qui me fait monter dans sa Jeep, qui me fait faire 200 km dans sa Jeep et qui m'amène à Bouguira, dans les contreforts du Lanarelija. Le soir même, dans mon pieu, avec les cigognes qui claquaient du bec et les chacals qui hurlaient, ça fait un sacré changement quand même. Hein.
Vous prenez la nuit là. Vous prenez immédiatement vos fonctions de chef de section, sans
tout
transition.
Tout de suite. Le lendemain matin, j'étais présenté à mon peloton. Et le pire, 15 jours après, j'étais affecté avec mon peloton dans une maison forestière de Tilouate, dans le sud de la Kabylie, c'était presque le désert, pour construire et adapter une maison forestière en poste. C'est-à-dire, il y avait des barbelés, il y avait des champs de mine, etc., etc. Je dois dire que ma formation d'ingénieur, là, mes origines modestes ont fait que j'ai lié des liens très rapidement avec, avec mes hommes, si je les appelais comme ça. C'est difficile hein, de dire mes hommes parce qu'ils n'étaient pas
moi. C'est comme ça qu'on dit.
Hein, mais c'est comme ça qu'on dit. Et il y a une confiance qui s'est établie. On a créé des conditions... pour pas qu'on vienne nous tirer dessus et pour pas avoir à tirer sur les autres non plus parce que ils étaient aussi convaincus que moi que on n'était pas là pour casser les mecs d'en face qu'on connaissait pas, c'était une minorité. On savait où ils étaient, on les évitait pour pas se faire tirer dessus, on évitait pour pas leur tirer dessus, mais les mecs d'Edouard qui étaient à côté, c'était braves mecs enfin on n'avait rien à leur reprocher.
Mais vous réalisez ça combien de temps? Vous dites une minorité. 15 jours après, c'est très court. Vous êtes jeune. Vous êtes très jeune. Vous avez 23 ans, 24 ans.
24 à peine. Je l'ai fait là-bas. Je l'ai fait là-bas au mois de juin après être arrivé là-bas. C'est une expérience humaine que je n'ai jamais retrouvée après. Quand je me suis retrouvé au commissariat de l'énergie atomique à diriger. Un laboratoire de 15 personnes dans lequel il y avait un polytechnicien, deux gars qui sortaient de physique et chimie de Paris, deux mecs qui sortaient de l'agro, des trucs comme ça. C'était du pipeau, quoi, à côté, quoi. C'était rien du tout. On parlait, il y avait aucune contrainte, on craignait rien, on avait peur de rien, tandis que là, bon, on était quand même pas tranquille, hein. C'était, les nuits étaient noires, pleines de bruit et qu'on comprenait pas toujours. Les ordres qu'on recevait étaient, la plupart du temps inexécutables. Donc je ne les exécutais pas tous, ce qui m'a valu, je dirais, ça continuait à me faire une réputation de... Oh, je ne dirais pas une mauvaise réputation, pour moi c'est une bonne réputation.
Donc premier contact avec la population qui ne passe pas par là, mais c'est vous qui découvrez la population.
C'est moi qui la découvre. C'est une population...
C'est un Douar éloigné, c'est combien de gens, comment ça se passe?
C'est des Douars qui étaient à la fois des Douars qui existaient avant, mais qui avaient été transformés déjà par l'armée française. C'est-à-dire qu'ils avaient rajouté des ménages qui venaient d'autres régions, qu'ils avaient déplacées. C'est le fameux système des harkis. Pour moi, les harkis, c'est les harkis volontaires tels qu'on les prévient. Il y en a peut-être qui ont été volontaires pour faire la guerre contre leurs co-religionnaires, mais à 80%, moi, ce que je vois, 90, ce que j'ai connu, c'est qu'ils avaient été mouillés par les militaires professionnels, je dirais, qui avaient pris déjà une baffe en Indochine et qui avaient fait ce qu'il fallait pour qu'ils apparaissent auprès du... Je ne rappelle pas l'effet Lagan, moi, comme on disait à l'époque, le FLN, le Front de Libération Nationale, comme des gens qui coopéraient avec nous. Ce qui était faux, mais ils faisaient exprès de montrer que c'était ça. Et ils leur disaient, maintenant, si vous ne voulez pas que les autres viennent vous tirer dessus, Vous venez, on construit des maisons dans le camp, vous venez avec femme et enfant, et vous venez là. Et c'est, les harkis, à 80%, c'était ça.
Alors, des harkis, il y en a eu quand même, d'après les historiens, 250 000 en Algérie, ça fait beaucoup. C'est 10 fois plus nombreux, c'était 10 fois plus nombreux que les combattants du FLN, autant que je sache. Donc, l'armée française a regroupé des gens et a manipulé une partie de la population.
Sur les 250 000, moi, je suis à peu près persuadé, je voudrais bien qu'un historien me confirme le contraire, parce que ça me ferait plaisir, quoi. Qu'il y en avait bien 200 000 qui avaient été forcés, je dirais.
Donc, dans ce village, il y a des gens qui ne sont pas originaires de l'endroit.
C'est vrai.
Mais dans ce village, ils avaient déjà eu des contacts avec l'armée française, en tous les cas avant 54, non?
Non, aucun.
Ils étaient isolés même par rapport à l'administration française.
Et le premier sous-lieutenant qu'ils ont connu, c'était moi. C'était moi? C'était moi parce que j'avais trois sergents qui étaient des instituteurs. Et je leur disais, on va pas rester quand même. Parce que faut pas croire, la guerre en Algérie, c'était pas tous les jours aller se tirer les uns sur les autres. Hein. Des fois, on passait 3 semaines sans sortir de l'endroit du camp retranché qu'on s'était fait. Ils disaient, on va pas rester comme des glands à faire des trucs. Moi, il m'arrivait en tant qu'ingénieur agronome de faire semer de l'avoine, du blé, n'importe quoi sur les restants pour qu'il y ait un peu de vert, quoi, si vous voulez. Bon, dès que ça montait, on arrachait et on ressemait pour avoir un petit peu de vert. Il fallait les occuper. Et comment mieux occuper, je dirais, trois sergents de formation, je dirais, école normale qu'en leur faisant faire l'école. Donc, on a construit un bâtiment et on allait chercher, les garçons venaient tout seuls, et avec les Aftrak, on allait chercher les filles dans le village. On les faisait monter, on les obligeait à venir à l'école. Et, eh bien, on a atteint le niveau du certificat d'études en l'espace de 6 mois. Vous m'entendez, en l'espace de 6 mois. D'accord. Ils avaient un instit pour 5 ou pour 6. Hein. Le niveau du certificat d'études, on les a fait passer le certificat d'études. L'inspecteur d'académie du coin ne voulait pas leur remettre des diplômes. On a fait fabriquer des diplômes dans une imprimerie et on leur a filé le diplôme du certificat d'études.
Mais attendez, alors là, il faut expliquer pour nos auditeurs, c'est que la France n'a pas suffisamment scolarisé la population algérienne.
C'est évident. Pas du tout même.
Donc on se retrouve avec un ingénieur agronome issu d'une famille SFIO du sud-ouest de la France qui fait passer un certificat d'études
à qui l'État français refusait n'envoyait pas les instituteurs depuis qu'ils s'étaient fait massacrer dans la vallée de la Soumam là depuis 56 il y avait pratiquement plus d'école dans les bleds. Il y avait plus d'écoles dans les bleds. Il y avait des écoles à Alger, il y avait des écoles à Bouguira, qui était la capitale, il y avait 20, 30 000 habitants, mais dans les Douars, tout, il y avait plus d'écoles.
Là, vous remontez pas depuis la colonisation. Vous dites aussi qu'il y a eu de toute façon, quel que soit l'effort, une interruption dès qu'il y a eu le 55, les massacres du Constantinois, voilà.
Tout à fait. Il y a eu un changement que j'ai pas senti. Parce que j'étais trop jeune, que je n'ai pas découvert quand j'étais étudiant en contestataire, et que j'ai découvert en arrivant sur le tas. En me disant, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'école dans un douar, finalement, où il y a 2 000, 2 500 habitants? Parce que les petits douars, ils n'en voulaient plus. Ils les rassemblaient dans des trucs suffisamment gros pour pouvoir les surveiller, de manière, si vous voulez, à ce que... Alors, tout le problème, c'était le problème agricole. Comment faire travailler ces gens sur des terrains qui n'étaient pas eux, alors que leurs terrains, ils étaient finalement à 15, 20 kilomètres de là, leur coup. Donc, on les transportait. Alors, moi, on me coupait l'essence. J'avais du pot, j'avais 5 chars d'assaut. 5 chars d'assaut, j'étais obligé de les faire tourner pour pas que les moteurs grippent 1 heure toutes les semaines. Chaque heure, ils bouffaient 500 litres d'essence. Il suffisait que je fasse tourner 40 minutes. Je gagnais 40 litres par char d'assaut. J'avais de quoi alimenter tout un tas de trucs. Bon, il n'y a pas que moi qui le faisais, quoi.
Vous restez dans le bled longtemps?
8-9 mois, je dirais, le temps d'un accouchement. Quand ils se sont rendus compte de ce que je faisais, j'ai été muté à Saharidj, sur les pentes du Lala Religia. Alors là, vraiment, en Grande Kabylie, là, c'était pas dans la plaine, c'était carrément dans la montagne. et où j'ai découvert le peuple kabyle de montagne, quoi. C'était, pour moi, c'était ma récréation, c'est mon meilleur souvenir de l'Algérie, ma meilleure façon de trouver des raisons pour dire que cette guerre est une connerie, qu'il fallait aider ces gens plutôt que de leur faire la guerre, qu'il fallait les aider à accéder à une indépendance voulue, mais pas une indépendance subie, parce que l'indépendance avec le FLN, là, on l'a vu après, hein, c'est vraiment une indépendance subie qu'ils ont eue. Hein. Même dans leur chair, hein, il y en a beaucoup, surtout des Kabyles, qui se sont fait bousiller par ceux qui se targuaient d'être leurs libérateurs, ceux qui allaient donner l'indépendance à l'Algérie. J'aurais pas dû connaître les Kabyles, parce que...
Pourquoi?
Ils sont très près de nous de par leur... pas par leur langue, mais par leur culture. Ils sont monogames, ils ont le culte des anciens, le culte des morts, comme dans mon sud-ouest natal, où on se réunit pour la Toussaint. Eux, ils se réunissent, les tombes, c'est autour de la maison. Ils mangent sur les tombes le jour, ils réunissent la famille, ils mangent là. Beaucoup de valeurs communes, je trouve. Le respect des femmes, il n'y a pas que les femmes qui travaillent en Kabylie, les hommes travaillent. Les Chaouias du côté d'Oran ou ailleurs, c'est pas pareil. Hein, dans les bleds, les mecs qui sont sous l'olivier et les femmes elles bossent, quoi. Hein. Là, c'est pas pareil. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent en Algérie d'ailleurs, les Kabyles. Hein, ça a rien à voir avec le reste.
C'est-à-dire, c'est les Kabyles qui étaient là au départ. C'est les Arabes qui sont venus après.
Voilà, oui, vous avez raison. Mille, hein,
ouais. Mais bien après. Ouais. Ils viennent du sud de l'Égypte. Oui. Mais c'est les mêmes structures, une question, les mêmes structures agricoles. On peut retrouver ça avec le sud-ouest de la France. Vous avez fait des points de comparaison.
Ah, tout à fait.
C'est les terrains ouverts, par exemple.
Ouverts, complètement.
Là, ce qui se passe, c'est qu'en Kabylie, vous trouvez une société.
Je retrouve là une société qui y ressemble. Qui y ressemble très, très fortement dans son comportement familial, dans son comportement vis-à-vis des femmes, parce que moi, vis-à-vis des femmes, ma grand-mère, mon grand-père faisait le malin, mais c'était ma grand-mère qui faisait marcher la maison. Hein.
Vous dites indépendance voulue, indépendance subie. Ouais. C'est un immense chapitre, puisque la plupart des historiens travaillent là-dessus à l'heure actuelle, depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire comment la France a mené sa guerre, et comment le FLN a mené la sienne. Alors c'est un vaste chapitre. Moi je voudrais simplement dire une chose. Auprès de la population qui est éloignée des centres urbains, on ne va pas parler des centres urbains, on va rester dans le bled. Cette population est totalement sourde. Elle ne peut pas entendre les débats qui ont lieu à Alger par exemple.
Pas du tout.
Alors comment elle vit la guerre de libération?
Elle a subi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle la vit pas, elle l'a subi. Elle a subi l'indépendance par la force, elle a tout subi par la force. Et elle l'a subi parce que la plupart des militaires français se sont laissés gruger, je dirais, alors que militairement, moi je peux vous dire que avant la déclaration d'indépendance, la guerre elle était gagnée, et de loin, hein. Même si les mecs du contingent n'avaient pas fait leur boulot à 100%, les militaires professionnels, ils avaient fait suffisamment de boulot pour que des fellouses dans les campagnes, à part se réfugier dans la Casbah d'Alger ou dans certaines grandes villes, dans le bled, il n'y en avait pratiquement plus, quoi. Ou alors on savait où ils étaient, c'était presque le zoo, t'en as trois là-bas, ils ne bougent pas, il faut leur porter à bouffer parce que sinon ils vont crever de faim. Donc militairement, c'était foutu. Mais c'est l'état d'esprit avec lequel cette victoire a été obtenue, c'est-à-dire que les militaires, après, ils ont voulu prendre le pouvoir. Ils ont refusé que l'Algérie soit indépendante, ils ont voulu que l'Algérie soit française.
C'est-à-dire, ces généraux, ces militaires de carrière, se sont retrouvés face au contingent, face au peuple français, en fin de compte, en Algérie.
C'est bien que vous disiez face au peuple français, parce qu'effectivement... on n'avait pas la grosse tête, on se voyait souvent, hein, on se déplaçait, les, les sous-lieutenants du contingent ont discuté, qu'est-ce que c'est ce bordel, le grand Charles il dit ça, eux ils font ça, etc. Ben, à plein cul, on va se laisser faire, etc.
La majorité des cadres de l'armée sont du contingent.
Du contingent, oui.
Donc une partie de l'armée, enfin les officiers supérieurs, ne sont pas du tout certains d'avoir derrière eux le reste des soldats.
Non. Et en plus, ils ont découvert à un moment donné, sur la fin, qu'il y avait une partie des militaires professionnels qui s'étaient rapprochés de l'armée du contingent. C'était la guerre des chefs. Nous, on était des petits chefs, mais on avait quelques capitaines et quelques colonels qui pensaient comme nous, qui disaient « c'est foutu, il faut essayer de s'en sortir par le haut et pas par le bas, par un massacre, comment ça s'est fini ?» Finalement, ça s'est fini par l'exécution des harkis, la fuite des petits colons qui étaient pour rien dans cette merde, et les autres, ils étaient déjà partis bien avant. Ça pouvait pas plus mal se finir que ce truc-là.
Les problèmes, Louis Seneb, de l'agriculture algérienne, est-ce que ça vous a intéressé d'entrer lorsque vous êtes arrivé en Algérie? Parce que c'est un gros problème à l'heure actuelle. La semoule est importée.
Ah oui, je dois dire que... pendant cette période, bon, j'ai eu une période, la première période là que je vous décrivais, Tilibouad, là où ils m'ont envoyé tout seul, où mon objectif c'était de leur démontrer qu'on pouvait faire une autre agriculture que celle qu'ils faisaient, et que celle que même les pieds noirs, ils continuaient à faire comme vous faites, et ils prélevaient comme mes métayers, les patrons des métayers dans le sud-ouest. Ils n'avaient rien à foutre la façon dont ils cultivent. T'as ramassé tant, on te prend tant. T'as tant de blé dur, on te prend tant de blé dur. Bon, j'ai dit, tu peux faire 4 fois plus de blé dur que ça, t'as qu'à enlever les cailloux. Tu peux pas enlever les cailloux. Allez hop, on met tout l'escadron, 40 mecs, on enlève les cailloux, on fait des tas. Au lieu d'avoir que sur un hectare 150 cailloux à contourner, ils n'avaient plus qu'un tas de cailloux à contourner. Donc ils augmentaient leur surface cultivable d'autant. Bon, ça c'est la première vision. La deuxième vision, c'est quand j'étais amené à me rapprocher de la bataille d'Alger avec mes chars pour faire du bruit, je me suis retrouvé dans la Mitidja. J'ai découvert une agriculture, je ne sais pas si les Israéliens ils sont aussi forts qu'eux étaient les pieds noirs à l'époque, irrigation de la Mitidja, la culture de cette ancienne zone marécageuse, mais c'était à citer, à mettre en exergue autant que les polders en Hollande et autant que ce que font les Israéliens. Là, c'était vraiment, vraiment... Et une fois les gars partis, c'était une sacrée dégradation. Hein. Il y avait la moitié des canaux qui ne fonctionnaient plus, la moitié des oranges récoltées qui étaient piquées, les oranges n'étaient plus traitées. Ils ne savaient pas, les pauvres. Hein. On ne leur avait pas enseigné. Ils exécutaient, c'est tout, mais on ne leur avait pas appris. C'est ça, la différence. On les a exploités sans leur apprendre quelque chose. Et moi, j'étais parti là-bas, sans idée préconçue, mais quand je suis arrivé, je me suis dit, il faut que je leur apprenne quelque chose. Ce n'est pas possible de les laisser comme ça. C'était, je ne sais pas, pour moi, c'était le Moyen-Âge, quoi, quand j'étais dans le bled. Le Moyen-Âge, quoi.
Vous vous étonnez pas des problèmes de l'Algérie aujourd'hui?
Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est toujours la même classe qui leur a imposé l'indépendance qui est encore au pouvoir, hein, pour l'instant. Hein. Vivement que ça change, parce que... Moi, je dis, de toute façon, j'ai tellement été marqué par la beauté des femmes kabyles que je dis, c'est les femmes qui sauveront le monde musulman, et plus particulièrement l'Algérie.
On peut tenir cela pour le mot de la fin.
Ah, tout à fait, oui. Je veux bien.
Merci. La traversée, une émission de Lucien Bertolina et Gilbert Racina. À partir de la rentrée, les prochains entretiens seront mis en ligne sur le site de Radio Grenouille. Bonsoir.